Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un accord après des mois de colère et de manifestations. Le gouvernement promet finalement aux sages-femmes une revalorisation de 500 euros par mois. C'est plus qu'annoncé initialement, mais vous l'entendrez, la profession reste sur sa faim. 3600 appels reçus en un an par la plateforme téléphonique destinée aux pédophiles. Parvient-elle à éviter des passages à l'acte? C'était l'objectif. Nous ferons un premier bilan. Au sommaire aussi, les voitures électriques, c'est peut-être l'avenir, mais beaucoup de Français ne sont pas prêts à sauter le pas. Et le sacre de 10% aux États-Unis, la série française récompensée cette nuit à New York.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
France Inter.
Elles ont promis, Alexis, un nouveau week-end noir.
Les sages-femmes ont prévu de se mobiliser à partir de vendredi pour la troisième fois en deux mois. À moins qu'elle soit convaincue par cet accord signé hier soir entre le gouvernement et plusieurs syndicats de la fonction publique hospitalière. Celles qui travaillent à l'hôpital vont donc recevoir 500 euros net de plus chaque mois, à en croire l'exécutif. De quoi calmer la colère, espère-t-on au ministère de la Santé. Pas si sûr, Véronique Julia.
500 euros net, voilà de quoi franchir symboliquement un palier. À l'hôpital, le salaire moyen d'une sage-femme était de 2000 euros, il passe à 2500. Sauf que dans le détail, près de la moitié de la somme était déjà acquise par le Ségur et donc déjà versée. La nouveauté ici, ce sont les 240 euros de prime mensuelle qui sont promis à compter du mois de février. Mais c'est une prime, ce n'est pas du salaire. Et pour Caroline Combeau, secrétaire générale adjointe de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, ça fait toute la différence.
Cette prime, comme toute prime, elle ne sera pas prise en compte dans les droits à la retraite. Il nous a bien été précisé aussi qu'en cas de maladie, maternité, la sage-femme, elle ne touche plus cette prime.
Autre reproche, la prime ne concerne pas les sages-femmes territoriales, celles qui travaillent en PMI. Elle concernera en revanche les contractuels de la fonction publique et doit être prochainement déclinée pour les sages-femmes du privé. Mais ce que les syndicats professionnels de sages-femmes regrettent, c'est qu'il n'y ait pas eu de négociation globale qui concerne tous les modes d'exercice de la profession et qu'on n'ait pas réexaminé les effectifs, les statuts et les conditions d'exercice. Caroline Combeau.
Les sous, c'est une chose, mais si on n'a pas les moyens de travailler correctement, ça ne sert à rien d'être bien payé. Nous, notre demande, c'est d'avoir plus de sages-femmes dans les maternités. Ce qu'on veut, c'est un choc d'attractivité pour la profession, parce qu'actuellement, on ne fait pas le plein dans les écoles de sages-femmes. C'est une catastrophe.
L'Organisation nationale syndicale des sages-femmes appelle d'ailleurs la profession à poursuivre la grève.
Et avec donc ce nouvel appel à se mobiliser de vendredi à lundi prochain. L'hôpital et ceux qui y travaillent de nouveau dans la crainte d'une saturation des services en raison du Covid. On n'est pas encore là, mais le taux d'incidence nationale atteint désormais 180 cas pour 100 000. La cinquième vague touche même Matignon. Jean Castex, testé positif au Covid. Il poursuit donc son isolement commencé dès hier quand il a appris qu'il était cas contact de sa fille. C'est d'ailleurs en visioconférence que le Premier ministre a dirigé la réunion hier soir avec les élus de Guadeloupe. Condamnation unanime des violences des derniers jours sur l'île, mais peu d'annonces concrètes hormis cette instance de dialogue pour accompagner les professionnels concernés par l'obligation vaccinale.
Il est 7h33, elle est censée aider les pédophiles à ne pas passer à l'acte.
Il y a un an était lancée cette plateforme téléphonique destinée spécifiquement aux personnes ayant une attirance sexuelle pour les enfants. Le 0806 23 10 63 doit les orienter vers des soins et prévenir d'éventuelles agressions sexuelles. Mais pour quel bilan à ce stade? Jérôme Jadot, 3600 appels ont été reçus en 12 mois.
3600 appels, mais sans doute 2 à 3 fois moins d'appelants, une même personne composant souvent le numéro à plusieurs reprises. Des appelants très majoritairement dans la cible, estime la psychiatre Anne-Hélène Moncani, présidente de la Fédération des CRIAVS, structure qui gère ce numéro.
Des personnes attirées sexuellement par les enfants, majoritairement une population masculine. La moyenne d'âge est entre 30 et 40 ans. En grande majorité, ce sont des gens qui n'ont pas agressé d'enfants, qui ne veulent pas en agresser. Un peu plus à la marge, mais quelques personnes qui ont consulté des images pédopornographiques, ce qui est une infraction, mais qui viennent nous demander de l'aide pour arrêter.
Une grande partie de ces appelants s'engagent ensuite dans des soins, mais certains hésitent de crainte de poursuites judiciaires. Les soignants sont obligés de signaler lorsque des enfants sont en danger. Magali Teillardira, psychologue à Montpellier.
Les auteurs qui appellent, qui sont malgré tout en souffrance et qui ont besoin de parler de ce qu'ils ont fait, se retrouvent un peu pris au piège de se dire « si je viens, le risque va être peut-être effectivement d'engager une procédure judiciaire ».
Le principal enjeu pour les soignants qui portent ce numéro, c'est de le faire connaître. Ils espèrent une vaste campagne de communication. afin de toucher les 3 à 5% d'hommes ayant déjà eu des fantasmes pédophiles.
Jérôme Jadot, comment mettre fin aux débordements à répétition dans les stades au surlendemain du fiasco du match OL-OM, énième soirée foot gâchée cette année? Le gouvernement s'empare du dossier, réunion ce matin place Beauvau, autour notamment du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de sa collègue des sports, Roxana Maraciné à nous. Sont conviés aussi la Ligue, la Fédération de foot, mais aussi les représentants des clubs et des arbitres. Encore une grosse semaine de campagne, et les adhérents LR choisiront ensuite leur champion pour la présidentielle du 1er au 4 décembre. Ce sera le congrès d'investiture. Parmi les fédérations à séduire en priorité, il y a Paris, la plus grosse de France. L'un des prétendants, Michel Barnier, y était hier soir en meeting. L'ancien négociateur du Brexit qui est ces derniers jours cible de toutes les attaques dans son camp, Anne Souhaitement.
Chouchou des militants à la rentrée, Michel Barnier est devenu l'homme à abattre dans les débats télé. Exemple, dimanche dernier, sur ses propositions en matière d'immigration.
Xavier Bertrand, pour les besoins du débat, fait semblant de ne pas comprendre.
Mais non, je vais aller vite, moi, il y a urgence.
Pas de panique, Michel Barnier désamorce.
Ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je vais continuer à tracer ma route et mon chemin.
Mais ajuste aussi sa stratégie. Une nouvelle proposition dans la dernière ligne droite, un service militaire et de sécurité pour tous, et une opération séduction, message à ses détracteurs qui le compare à un bonnet de nuit.
Mon épouse me dit quelquefois, tu dois avoir un peu plus d'humour. Alors, il y a des marges de progrès, je le reconnais. Hein.
Un cocktail gagnant, hier soir ils étaient plus de 500, très majoritairement séduits par l'homme du Brexit et son CV, dont Catherine qui vient de prendre sa carte pour voter Barnier.
C'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui a fait de nombreux postes, qui a une stature d'État et qui sait de quoi il parle.
Daniel, militante historique.
Il n'a pas ce côté évidemment télé, braillé dans un micro ou autre, mais c'est pas ça le problème. On n'est pas là pour faire des effets de manche.
Ou Thierry, encarté depuis 20 ans.
C'est sûr qu'on a considéré que c'était quelqu'un qui était très sérieux et j'ai trouvé qu'il a eu une démarche très personnelle et très véridique.
Donc c'est votre candidat ?
Oui.
Michel Barnier réussira-t-il son pari ? Plusieurs lieutenants adverses le voient en tout cas qualifié au second tour.
Anne Souhaitement pour Inter. Vote final aujourd'hui au Parlement européen sur la nouvelle politique agricole commune. La nouvelle PAC qui entrera en vigueur en 2023. Parmi les nouveautés, une partie des aides directes aux agriculteurs sera conditionnée au respect de critères environnementaux. On y revient en détail dans le journal de 8 heures. Et vous, qu'êtes-vous prêt à faire concrètement pour l'environnement? Acheter une voiture électrique, par exemple? Eh bien, il en reste beaucoup à convaincre. Selon cette enquête dévoilée ce matin du fournisseur d'énergie verte OVO Energy, 66% des personnes interrogées par l'IFOP estiment que les véhicules thermiques auront disparu d'ici 20 ans, mais 41% d'entre elles achèteraient encore une voiture à essence si elles devaient changer de véhicule dans l'année. François Legrand, du département Opinion à l'IFOP.
Les voitures électriques, donc on voit les principaux freins à l'utilisation, c'est d'abord que c'est des véhicules qui sont perçus comme pas encore parfaitement pratiques, avec notamment les freins autour de la question de l'autonomie des batteries et des bornes de rechargement. Donc on voit que c'est un produit qui est encore perçu comme n'étant pas parfaitement adapté par les Français. Alors après, ce qui est très intéressant et ce qui change la donne pour les voitures électriques, c'est que quand on interroge les Français qui pourraient changer de véhicule au profit d'une voiture électrique, on voit qu'en fait la première motivation devant la motivation environnementale, c'est la question des économies liées au fait de ne plus avoir à payer de carburant. Donc on voit vraiment que cette question du prix de l'essence qui a été réactivée, on l'a vu récemment dans le débat public, elle reste particulièrement prégnante. Et donc sur la motivation maintenant à passer à la voiture électrique, c'est avant tout une motivation économique devant une motivation écologique.
François Legrand avec Agnès Soubiran. Au procès du 13 novembre 2015, la Cour reprend aujourd'hui son examen du parcours des terroristes et l'audience va prendre une dimension internationale. De nombreux enquêteurs étrangers sont appelés à témoigner dans les prochains jours, Charlotte Piret.
L'ancien procureur de la République de Paris, François Molins, l'a rappelé à la barre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attentats terroristes qui ne concernent qu'un seul pays. Et l'enquête du 13 novembre 2015, plus que tout autre, a nécessité de faire appel à la coopération internationale. Avec la Belgique, évidemment, la majeure partie des préparatifs s'est déroulée à Bruxelles. C'est de là que provient aussi le plus grand nombre d'accusés. Jusqu'au 8 décembre prochain, 9 enquêteurs de la police judiciaire belge vont ainsi se succéder. Ils ont obtenu que ce soit anonymement et par visioconférence. Mais avant cela, c'est un enquêteur autrichien qui doit faire le déplacement cette semaine pour raconter comment deux des accusés, Adel Haddadi et Mohamed Osman, ont été arrêtés en Autriche
riches dans un foyer pour migrants. L'enquête a permis de retracer qu'ils avaient quitté la Syrie en compagnie de deux kamikazes du Stade de France et qu'ils devaient probablement faire eux aussi partie des commandos. Un travail de coopération avec l'Autriche qualifié de réussi par la France. C'est moins le cas avec la Turquie, par exemple, qui détient l'un des accusés de ce procès, Ahmed Damani, mais qui a refusé sa remise à la France pour la durée de cette audience.
Charlotte Piret au procès des attentats de novembre 2015.
Et après le triomphe populaire, Alexis, la consécration internationale pour 10%.
Oui, la série française primée cette nuit aux International Emmy Awards de New York. 10% remporte le prix de la meilleure comédie au cours de cette cérémonie qui récompense chaque année les productions télé hors États-Unis. Fanny Herrero est la créatrice de cette série sur les agents de stars. Elle revient ce matin sur les raisons du succès. Nous avons pu la joindre à New York.
C'est une série, je pense, qui en fait a marché par son originalité. Qu'elle est à la fois très française dans ce qu'elle raconte, par ses personnages, par son univers, par son arène. Évidemment, on est à Paris, donc ça c'est aussi quelque chose qui a touché les gens. Et en même temps, on est dans l'écriture, on a été, nous, très inspirés par une forme d'efficacité peut-être anglo-saxonne. Il y a quelque chose d'assez précis, ciselé, travaillé, des codes d'humour aussi qui sont beaucoup basés sur l'autodérision, sur une forme d'ironie assez mordante. Donc c'est peut-être qu'une des raisons du succès de 10%, c'est cette greffe entre un esprit français et une façon de faire plus anglo-saxonne.
Fanny Herrero, elle répondait à Michael Thébault après ce sacre aux États-Unis de 10%, sacre bien mérité, on peut
le dire. Oui, merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.